J'ai vu ta chronique là, que tu avais refait tout un retour sur les visuels des jeux que tu avais joués.
Bah oui, c'était déjà parce que c'était une manière de fêter ce très très cool week-end. Et en plus, c'est vrai que j'avais trouvé l'inspiration comme ça avec les différentes discussions, c'était cool.
On sent bien que Kremlin, t'as bien tapé dans
l'œil
quand même.
Alors je saoule tout le monde, tous les gens que j'ai croisés, tous les joueurs que j'ai pu croiser depuis le week-end proxy jeu, je les saoule avec Kremlin. Je sens que je vais partir à la chasse au Kremlin bientôt pour pouvoir leur faire découvrir ce jeu incroyable.
Je me disais bien qu'il allait finir sur ta wishlist, tiens.
Ah bah oui, oui.
Hey, salut.
Hey, salut Peter.
Salut Peter.
Vous allez bien?
Bien, et toi?
Ça te dérange pas? Vous discutez de jeux encore, j'imagine.
On revenait un petit peu sur nos souvenirs, ouais.
Du week-end proxy jeu où tu n'étais pas?
Ah oui. Eh oui, le fameux week-end proxy jeu que j'ai raté.
Bah alors, t'étais où? Tu faisais
quoi? Moi, j'étais en vacances. J'étais au bord de l'océan, bassin d'Arcachon.
Ah, oh, c'était... Voilà. C'était une bonne raison, alors.
Eh bon. Oui.
Et t'as joué à quoi?
Eh bien, j'ai joué à Isle of Skye Big Box, le jeu Isle of Skye, mais j'ai récupéré la Big Box peu de temps avant mes vacances. La Big Box d'Isle of Skye qui est sortie, je crois, l'année dernière. Et Isle of Skye, c'est un jeu qui, lui, est sorti il y a bien plus longtemps que ça. Et je l'avais testé en festival au moment de sa sortie, 2015, je crois. Et j'en gardais un très bon souvenir. Je me souviens plus si j'avais terminé ma partie ou pas. Mais bon, bref, quand j'ai vu la Big Box, je me suis dit « Ah !» Et puis, c'est un auteur que j'adore, c'est Alexander Pfister. Hein, donc celui qui a fait notamment Great Western Trail et Maracaibo, qui sont deux jeux que j'adore également. Et donc là, je m'y suis remis. Et donc, avec ma compagne, on en a fait quelques parties au début des vacances, justement. Donc la Big Box, évidemment, il y a plusieurs extensions qui sont incluses dedans par rapport à la version de base. Pour l'instant, on les a pas testées. La version de base déjà est très très bien. Et donc, ce jeu, je sais pas si vous le connaissez. Vous le connaissez un petit peu?
Oui, 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 je l'ai aussi moi. Et j'aime bien Pfister, mais j'aime bien Pfister dans ses jeux plus légers. Tu vois, comme Port-Royal par exemple.
D'accord. Ok, je connais pas Port-Royal. Pas testé.
C'est un stop ou encore qui est assez cool.
Ouais.
Et Isle of Skye, pareil, dans le côté plus léger, je trouve qu'il est vraiment sympa.
Ouais.
Nous aussi, on l'a à la maison, la version de base, on n'a pas d'extension, mais ça fait un bout de temps qu'on n'y a pas joué. Là. Tiens, il faudrait le ressortir, effectivement.
Et ouais. Donc, en tout cas, moi, c'est un jeu que j'adore, que je conseille. Et donc, pour décrire un petit peu ce jeu, hein, donc c'est un jeu de placement de tuiles, donc à la Carcassonne. Donc on pioche des tuiles, on va construire son petit domaine. Donc le domaine est par contre indépendant, hein, pour chaque joueur. On peut y jouer de 2 à 5, donc c'est une modularité qui est intéressante, même si à 2, je pense que c'est pas l'idéal. J'y ai joué aussi à 5, voilà, juste après mes vacances, parce que j'avais envie de le tester à plus nombreux. Et c'est un jeu qui, effectivement, comme tu dis, Elodie, est plus léger et qui tient, moi, je trouve, en une heure et demie, voilà, à 5 joueurs. Et pourtant, il se passe plein de choses. Enfin, il y a plein de rebondissements, d'émotions, de sensations, de bonnes sensations qui se passent au travers de ce jeu, et notamment grâce à son système économique, que je trouve assez intéressant. Pourquoi ? Parce que les tuiles qu'on va piocher dans le sac, donc à la différence d'un Carcassonne, on n'en pioche pas une, mais on en pioche trois par joueur à chaque tour, en fait. Enfin, tout le monde va en avoir trois devant soi. Et on va en acheter une. On a la possibilité d'en acheter une à un autre joueur lors d'un tour. Alors, ils appellent ça un tour d'enchères, mais c'est pas vraiment des enchères, en fait. J'aime pas ce terme. C'est un tour d'achat, un tour de commerce. Et c'est chaque joueur qui va fixer le prix d'achat ou le prix de vente pour lui des tuiles qu'il a devant lui. Et il est obligé de mettre au moins une pièce d'or. Donc, il y a de la ressource. Hein. On a quelques pièces d'or. Et si on nous achète une tuile, on récupère l'argent donné par l'autre joueur et on récupère aussi l'argent qu'on avait réservé devant cette tuile-là pour indiquer son prix. Et si on ne nous achète pas toutes nos tuiles, donc s'il nous en reste au moins une, quoi, les tuiles qu'on ne nous a pas achetées, on va les récupérer pour soi, donc on va les placer après dans son domaine, mais on perd l'argent qu'on a mis en face pour indiquer son prix. Donc en fait, à chaque fois qu'on est dans cette phase-là où on va devoir estimer le prix de ces tuiles, il va y avoir des questions qui vont se poser du coût qu'on va mettre sur notre tuile. Parce que si on met un coût cher, par exemple, si on nous l'achète, on va gagner deux fois cette mise-là. Donc quelque part, ça va être intéressant parce qu'on va avoir plus d'argent pour après acheter. Mais si on la met trop cher et que personne ne nous l'achète, on va perdre cet argent-là. On va garder la tuile, mais on va perdre cet argent-là. Et le fait de mettre une tuile chère va aussi avoir un intérêt, c'est qu'on peut comme ça ne pas se la faire acheter. Parce qu'on ne peut pas refuser une transaction. On est obligé de l'accepter. Et donc c'est un choix qui quand même fait un petit peu mal au cerveau, mais heureusement ce jeu ne dure que 6 manches à 2. Si on est 5 joueurs, c'est 5 manches. Il y a une manche de moins pour garder un temps raisonnable de partie. Je pense que la volonté c'était vraiment que ça tienne en 1 heure, 1 heure et demie. Et voilà, donc faut bien anticiper ses coûts. Et on peut être très riche, mais ne pas avoir de tuiles, donc on va pas avoir beaucoup de points, puisque le but du jeu c'est quand même d'avoir le plus de points en fin de partie, et donc les tuiles qu'on va placer dans son domaine vont scorer, alors au fur et à mesure du jeu, et puis il y a du scoring aussi particulier à la fin de partie. Une super rejouabilité sur ce jeu aussi, et ça j'adore moi, quand les jeux te permettent de revivre les mêmes sensations, mais avec des paramètres d'entrée différents. Parce que les points sur lesquels on va scorer à chaque partie vont être tirés au hasard. On va en tirer 4 au hasard parmi, peut-être une vingtaine de tuiles score. Alors ça, c'est dans la big box. Je pense que dans la version initiale, il y en avait un peu moins. Mais comme là, il y a les extensions qui sont incluses, ça en fait pas mal. Et on va pouvoir scorer sur soit le nombre de moutons, le nombre de vaches, le nombre de phares, le nombre de brocs, le nombre de barils de whisky qui sont reliés à notre château, le nombre de montagnes qu'on a fermées, le nombre de lacs, ou la taille de ces pièces. Enfin, il y a plein de choses différentes sur lesquelles on va scorer avec les éléments soit de paysage ou soit les éléments qui sont inscrits sur les tuiles, donc ça donne beaucoup d'ampleur. Et en plus il y a des tuiles sur lesquelles il y a des éléments de scoring individuels supplémentaires, donc les parchemins, donc qui vont nous permettre de rescorer aussi sur d'autres éléments. Et donc les parchemins c'est en fin de partie qui score. Voilà, donc c'est vraiment un jeu assez varié. Et puis le petit twist aussi que je trouve intéressant, c'est que lorsque vient le moment de fixer le prix de ces différentes tuiles, on doit aussi, c'est pas une possibilité, c'est on doit défausser une des 3 tuiles qu'on a piochées, donc qui ne pourra pas être achetée du coup et qui ne pourra pas nous revenir non plus. Et parfois on a intérêt à défausser une tuile qui est hyper intéressante pour pas que les autres ne nous l'achètent, puisque c'est d'abord le tour d'achat des autres joueurs avant qu'on puisse récupérer les tuiles qu'on ne nous a pas achetées. Donc on a parfois intérêt à la défausser avant, même si elle pouvait nous intéresser nous. Ça vaut le coup parfois de la défausser. Donc un jeu vraiment, vraiment bien pensé, vraiment intéressant. Moi je m'en suis pas lassé, je sais pas combien j'ai fait de parties, peut-être bien 5 parties là pendant mes vacances, puis en plus comme ça déroule et que c'est assez rapide, c'est vraiment très agréable. Voilà, donc c'est ce jeu I Love Sky, et puis j'ai hâte de découvrir les extensions, même si on a déjà suffisamment avec la boîte de base. Et il y a une extension d'ailleurs qui est exclusive à cette version Big Box, qui a l'air intéressante. J'ai lu les règles quand même des extensions. Et c'est ça qui me donne bien envie de les tester aussi. Mmh. Voilà.
Ouais, moi je me souviens, effectivement, c'est sympa. Et je me souviens de parties où, justement, on voulait garder une tuile pour nous, donc on mettait beaucoup d'argent dessus, qui était déjà un truc de fou, et l'autre venait quand même l'acheter, quoi. C'est terrible.
Oui.
Tu te dis, mais jamais ils dépenseront cet argent-là. Déjà, moi, ça me fait mal.
Du coup, t'es le plus riche, mais t'as pas de tuile.
C'est ça. Et le scoring de mémoire, c'est un scoring un peu comme cartographeur.
Alors, cartographeur, je sais plus, j'ai joué une fois.
Oui, il me semble, oui, t'as un scoring à la cartographeur. Un coup, tu scores le premier truc, après, ça va être le deuxième, après, une association de deux.
Tout à fait. Ouais, chaque tuile scoring, donc il y a 4 tuiles scoring, chacune va être scorée 3 fois au cours de la partie. Et la manche 1, 3 et 5, tu scores la tuile A, la 2, 4, 6, tu scores la tuile B, puis après, tu scores 2 tuiles, puis à la fin, tu scores 3 tuiles d'un coup. effectivement, qui est une montée en puissance. Donc il faut aussi que tu anticipes les tuiles que tu vas prendre par rapport au scoring que tu vas faire après. Par exemple, après la manche 4, après la manche 5, par exemple, tu ne scores plus la tuile A à la dernière manche, donc ça ne sert à rien de prendre une nouvelle tuile qui va t'augmenter ton scoring de la A, quoi.
Ok, voilà. Ok.
Effectivement, il y a ça.
Mais ouais, moi j'ai fait que des parties à au moins 3, entre 3 et 5. Et en effet, je me dis qu'à 2, ça doit quand même pas être la meilleure des configurations pour négocier et
tout. T'as plus de contrôle, disons que tu es sûr d'avoir au moins une tuile qui te revient, puisqu'on ne peut acheter qu'une seule tuile à un adversaire. Donc tu vas pas avoir deux adversaires qui vont t'acheter tes deux tuiles que t'as mis à la vente. Donc ça a ce côté-là quand même d'avoir au moins une tuile. Donc ça, c'est sympa quand même. Voilà. Et mais oui, il y a pas ce côté où tu peux te faire dépouiller, voilà, par les autres joueurs, et voir ne pas réussir à en acheter une non plus, toi, de l'autre côté, parce que celles qui restent sont trop importantes. Oui, parce qu'il y a un paramètre, j'ai pas dit, mais il y a un premier joueur, donc le premier qui va acheter. Donc lui, il a pas encore pu vendre de tuiles, donc il a pas encore ramassé d'argent qu'il va devoir en acheter. Donc il va falloir que dans le coût des tuiles qu'il aura fixé, il se soit gardé un peu d'argent de côté pour pouvoir, en tant que premier, en premier joueur, en acheter. Parce que l'argent qui nous sert à fixer le coût des tuiles et l'argent qui nous sert à acheter des tuiles, c'est le même. Hein. C'est les mêmes pièces.
Yes.
Et tout l'argent est caché aussi dans ce jeu. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc, il y a des petits paravents en carton qu'on monte à chaque fois, avec l'aide de jeu aussi derrière. Chaque paravent a le nom aussi d'un laird écossais. Alors je dis laird, c'est parce que c'est le sous-titre du jeu. C'est de laird à roi. Alors laird, c'est un peu l'équivalent de lord en anglais. Je me suis renseigné sur Wikipédia, hein, évidemment, je ne le savais pas. Et donc c'est en Écosse. Les lairds, c'est comme ça, c'est les grands propriétaires terriens qui avaient des fiefs octroyés par le roi. Voilà.
Ok, merci.
Ok, ouais. En plus on apprend des trucs.
Ouais.
Merci Peter. Bon, et toi, Drew, t'as joué à quoi ?
Ah, alors moi, j'ai joué à un jeu que j'avais dans le viseur depuis un petit moment, puisqu'on l'avait repéré à Essen, mais on n'avait pas pu y jouer, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de tables. C'était même peut-être un petit peu confidentiel. On a donc joué à High Season. Le vrai titre, le titre complet, c'est même High Season, Grand Hôtel Roll and Write. Donc si vous avez suivi un petit peu Grand Hôtel, ça doit vous faire penser à Grand Austria Hotel. C'est en fait la version Roll and Write de Grand Austria Hotel. Et du coup, c'est les mêmes auteurs que Grand Austria. Ouais, ils ont osé. Et c'est les mêmes auteurs que Grand Austria, plus un petit nouveau. Et ce petit nouveau, là, il a notamment fait la version Roll and Write de Orléans, qui s'appelle Jeanne d'Arc, et donc il les a rejoints pour faire celui-là. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, on va voir. Mais... Et pour l'instant, c'est pas en français. C'est de l'anglais, c'est de l'import pur. Et je ne sais pas si on l'aura en français, parce que quand on regarde déjà le Grand Austria Hotel de base, il n'est plus dispo en français. C'était assez Funforge qui le faisait. Il n'est plus dispo, il n'est plus sur leur site. Ils ne nous parlent même pas des extensions qui sont sorties il y a 3 ans, qui ne sont toujours pas en français. Donc il y a peu de chances qu'on le voit arriver en français celui-là aussi. Quoi. C'est bizarre. Je ne sais pas s'ils ont perdu la licence, mais en tout cas, pour l'instant, pas de signe d'import de localisation française. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour transformer Grand Austria en High Season ? Eh bien, ils ont enlevé pas mal, quand même. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le lore de Grand Austria. Toi, je sais qu'Elodie, tu y as joué justement au week-end de Proxy Jeux.
Peut-être. Peut-être bien.
Peut-être que tu aurais même battu Lana, on m'a dit, mais...
Peut-être bien aussi.
Ça chambre quand même, hein. Et Lana n'est pas là pour se défendre, en plus.
Non, même pas. Et donc, dans Grand Austria Hotel, on est des managers d'hôtels, même d'hôtels-restaurants, puisqu'on va accueillir des clients au restaurant pour lesquels on devra préparer à manger des cafés, des strudels, des choses comme ça. Et une fois qu'ils ont été servis à table, on va les monter dans les chambres de l'hôtel. Donc, il faut préparer les chambres et les accueillir. Sachant que donc chaque personnage a une couleur, donc il veut aller dans la chambre de sa couleur, etc. Donc ça crée un petit gloobie-boulga comme ça de mécanique bien sympathique. Tout ça autour d'une notion de prise de dés. On va lancer tout un pool de dés au départ, que l'on va répartir par valeur, et chaque valeur va nous permettre de faire une action qui sera, forte du nombre de dés de cette valeur. Donc là, dans High Season, ils ont repris tout ça, et au lieu de gérer un hôtel-restaurant, on ne gère plus que la partie hôtel. Donc on va avoir de la même manière un pool de dés qu'on va lancer dans le début de manche, et on va comme ça après choisir les dés. Donc chaque dé, à nouveau, selon sa valeur, va nous faire une action qui sera forte du nombre de dés de cette valeur présent. Et donc, les actions qui vont rester, puisqu'il n'y a plus la partie restaurant, il n'y a plus que la partie hôtel, ça va être d'ouvrir des chambres et de les fermer. Donc, on a devant nous une petite plaquette. Donc, c'est un roll and write. Alors, c'est pas du papier. Ils ont fait ça bien. C'est des petites plaquettes en carton un peu plastifié qu'on va pouvoir effacer après. Donc, on va comme ça avoir chacun une plaquette devant soi avec son hôtel. Donc, toutes les plaquettes sont différentes. Elles sont même double face. Donc, on a une vraie différence de fonctionnement entre chaque plateau. Et en plus de cette plaquette qui représente nos étages d'hôtel, on va avoir en dessous une petite plaquette amovible qui vont représenter nos employés, puisque dans Grand Austria, on peut aussi recruter des employés. Donc là, ils seront fixes pour toute la partie. Ce ne sont plus des cartes, c'est plus un paquet de cartes qui va se dérouler au cours de la partie. C'est, on a 6 employés, 2 qui vont être des one-shots, donc qu'on va utiliser une fois, 2 qui vont nous apporter des petits pouvoirs qui vont durer tout le long de la partie, et 2 qui seront pour du scoring final. Et on va pouvoir les employer, justement, en payant de l'argent au fur et à mesure de la partie. Donc tout ça, ça s'imbrique. On retrouve un petit peu la piste de l'empereur, qui va nous donner des bonus ou des malus à chaque manche. Voilà, on retrouve quand même pas mal de choses de Grand Austria, mais le fait d'avoir retiré toute la partie restaurant, moi, ça m'a un peu embêté, parce que je trouve que c'est ce qui apportait le petit sel du jeu. On se battait pour aller chercher ses clients, parce que les clients étaient dans une rivière, donc il fallait aller payer. Si tu voulais un client très intéressant qui était haut dans la rivière, il fallait payer plus, ou alors t'attendais qu'il redescende, mais au risque tes petits camarades te le piquent. Et après, ses clients étaient... Bon, c'était des personnalités, c'était rigolo, fallait après se débrouiller pour faire du café, des gâteaux, et du coup, il y avait tout ce management de ressources qui n'est plus là. Puisqu'on n'a plus que la partie hôtel. Et je comprends l'idée. À la limite, le jeu, quelqu'un qui ne connaîtrait pas Grand Austria peut peut-être trouver le jeu très bien. Et je dirais que ce serait peut-être même un marchepied pour avant d'aller jouer à Grand Austria, presque. Mais pour moi, je me sens un petit peu frustré. J'ai plus toute cette partie de clients à servir, toute cette partie d'interaction avec les autres joueurs. Parce que, alors certes, il y a toujours la notion de si je vais prendre un dé dans le pool de dés, je réduis les futures actions de mon adversaire. Mais il n'y a plus que cette interaction-là. Et je trouve ça un petit peu trop léger, du coup. Un petit peu trop allégé, on va dire, par rapport à la version de base. Alors, pour l'instant, on a joué qu'à deux, on en a fait 2-3 parties, on va certainement y rejouer, ça, y a pas de souci. La notion asymétrie est pas mal, hein. Alors, parce que ce que j'ai pas dit, mais je vais pas vous expliquer toutes les règles, hein, c'est... Après, à la différence de l'autre, il y a des petits bonus sur chaque chambre. Donc, quand on va fermer des chambres, ça va nous donner un petit truc et on peut commencer comme ça à comboter. Parce que si le bonus, quand je ferme cette chambre-là, c'est de fermer une autre chambre, comme ça, on va avoir des petits combos qui vont se déclencher, qui peuvent être intéressants. Mais voilà, je pense que c'est à essayer pour ceux qui aiment bien les Roll and Write. Pour ceux qui aiment bien Grand Austria, ça risque de... il va leur manquer quelque chose, quoi. Ça va les titiller un peu, je pense. Je sais pas si vous connaissez Grand Austria.
De nom, mais j'ai toujours pas joué à Grand Austria. Mais par contre, la description que t'en fais là me donne bien envie de tester le Roll and Write. Alors en plus, si tu dis que c'est une bonne passerelle avant de tester le grand jeu Grand Austria, ça m'intéresse bien. Ce qui peut me rebuter moi un peu, c'est les cartons, du coup c'est effaçable avec les feutres. Moi j'aime pas trop, j'aime bien le papier et le crayon quand même.
Après, si tu veux être encore plus économe, j'ai vu qu'il était en bêta sur BGA, donc tu peux même l'essayer là-bas, je crois. Et après, je préfère le cartonné. Alors, moi, je préfère le cartonné, ou en tout cas, ce qu'on fait avec nos Roll and Write, c'est qu'on les plastifie pour pas justement jeter des feuilles. Puis des fois, comme t'aimes bien le Roll and Write, tu peux en faire plusieurs parties, de montrer à plusieurs personnes, et des fois, les paquets de feuilles, ça descend vite. Donc, on a tendance à plastifier de la même manière les feuilles papier. Donc là, d'avoir directement quelque chose d'un peu plus qualitatif, de directement tout près. Alors, il y a carton plastifié et carton plastifié. Hein. Des fois, dans certains jeux, c'est mal fait, ça s'efface pas bien. Là, pour l'instant, sur les quelques parties qu'on a fait, ça allait encore pas mal. Mais voilà, à essayer. Bon, on le ramènera au prochain week-end proxy jeu, s'il y en a qui veulent l'essayer. Mais...
je crois que je m'en tiendrai au grand frère.
Ouais,
le grand frère m'avait vraiment bien plu. Et du coup, ce que t'en dis, là, c'est vrai que... Puis c'est un peu opportuniste ces versions Roll and Write, surtout une version Roll and Write d'un jeu qui est déjà un jeu de dés. Je trouve que il y a un côté un peu ridicule quand même, non?
Mais je comprends bien le principe. Hein. Ils ont cherché à accélérer le jeu et c'est vrai que même dans la prise de dés, il y avait une notion de serpent, c'est-à-dire que le premier prend, le deuxième, troisième, le dernier en prend un, et il reprend un, et ça revient comme ça jusqu'au premier. Du coup, il y avait quand même pas mal de réflexion. Là, c'est simplement on prend les dés à tour de rôle et on suit le tour de table. Donc il y a vraiment une volonté d'accélérer le jeu. Hein. Ils le donnent pour 45 minutes, mais ça peut même aller plus rapidement. Mais voilà, pour moi, ça a été trop dépouillé pour en faire un jeu trop accessible, trop rapide.
Et ça peut-être. Me fait penser un peu à 3 Dice. Je ne sais pas si tu as testé 3 Dice. Donc pareil, avec le grand frère 3. Et...
Ouais, on aime bien aussi. Ouais.
Parce que c'est des dés aussi.
Ouais, ça n'a pas grand-chose à voir, je trouve. Ouais. Mais ouais.
Bah nous, on n'a que la version Dice de 3. Du coup, je n'ai jamais joué à 3.
Ah oui.
Donc 3 Dice, j'aime bien. Mais comme je n'ai jamais joué à 3... Tu vois, j'aurais joué à 3 en premier, j'aimerais peut-être pas de 3 dice.
Pour le coup, moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de lien entre les deux, hein. À part la thématique.
Ouais, pareil.
Bah, faudra que vous me fassiez jouer à 3 alors.
Ça marche, pas de souci. Et toi, Elodie, donc, t'as joué à quoi?
Alors, moi j'ai joué à quelque chose qui n'a rien à voir avec les jeux dont vous parlez. Déjà, c'est pas illustré par Clemens Franz, parce que vos deux jeux sont illustrés par Clemens Franz.
Ah ouais, d'accord.
Ouais, c'est rigolo.
Elle a l'œil, hein, elle a l'œil.
Et... Je suis allée voir, je suis allée me renseigner sur ce dont vous avez parlé. Non, on va partir en Pologne avec le jeu Etherfields de Michal Horatz. C'est l'auteur de This War of Mine.
Mm.
Et c'est sorti par chez Awaken Realms, qui sont les éditeurs de Nemesis. Donc on est dans un gros KS, une énorme boîte que je suis bien contente de ne pas avoir acheté moi. Hein, je ne vous cache pas. Je suis bien contente d'avoir... un ami qui a ce jeu, et c'est du coopératif en campagne, et donc nous on fait, là on est sur une campagne à 4, on a déjà fait 3 parties, et c'est un jeu assez bizarre. Donc je vais vous lire quand même le pitch qu'on trouve sur Philibert, parce que c'est ça qui m'a donné envie, et vous allez voir, on est quand même sur le pitch en tout cas, et même dans le jeu, dans quelque chose d'assez particulier. Donc découvrez les rêveurs, leur passé oublié et leur mission désespérée. Découvrez les paysages de rêves surréalistes et tentaculaires. Ne soyez pas surpris lorsque, comme c'est souvent le cas dans les rêves, ils deviennent un peu inquiétants. Préparez-vous à relever le défi d'énigmes semblables à celles d'une escape room. Trouvez un indice dans l'image. Voyez un lien caché entre plusieurs éléments d'information. Faites appel à votre instinct autant qu'à votre logique. Au début, vous explorerez le monde des rêves en essayant de découvrir de quoi il s'agit et qui vous êtes. Et soyez-en certains, vous êtes là pour une raison précise. Mais au début, vous ne pouvez pas vous souvenir de grand-chose. Vous devrez restaurer vos souvenirs à partir de morceaux épars. Et en effet, le jeu, il est très épars au début. Première partie, tu sais pas trop ce que tu fais, pourquoi tu fais. Donc celui qui nous l'a proposé, il en avait déjà fait nous deux parties. Donc il nous a dit, vous inquiétez pas, vous allez rien piger au départ, c'est normal. Ça va venir au fur et à mesure des parties. Ok, donc on en a plein la table avec des figurines en plastique qui sont très belles. Hein. Les figurines sont magnifiques. L'art est magnifique. L'illustratrice, c'est Eva Labac et Michal Salata. Donc, rien à dire sur le design. C'est bizarre. C'est très bizarre. On est dans un univers un peu... Moi, je trouve qu'il y a un peu de Lynch, un peu de fantastique, un peu de truc... Enfin, c'est très, très sombre. C'est chelou. Et donc, on va commencer par aller sur une map onirique. Dans cette map onirique, on va se balader de point en point. Ensuite, on va aller dans des songes qui vont nous permettre d'obtenir des clés. Une fois qu'on a des clés, on peut aller dans des rêves. Je vous ai perdu là ?
Ouais, on est en plein cauchemar.
Là, un peu, hein. Ouais, c'est un peu ça. Et une fois dans les rêves, c'est là qu'on va pouvoir vraiment commencer à jouer, à faire des trucs avec nos cartes. Parce qu'on a un mécanisme un petit peu de deck building, c'est très très léger. Moi, je pense que c'est plutôt de la gestion de main. Parce qu'on va avoir un tas de cartes pour notre rêveur. Chaque personnage est asymétrique, ça c'est chouette. On a vraiment des capacités différentes les uns les autres. Et donc on va avoir jusqu'à 6 cartes en main. Et avec ces cartes, on va pouvoir se déplacer, se battre, interagir avec notre environnement. Et aussi les utiliser par rapport à des effets spéciaux qu'elles peuvent avoir. Et les stocker aussi devant nous. Une fois qu'on a utilisé tout notre paquet de cartes, qui est pas... on a une trentaine de cartes je crois... Si on veut rebattre notre paquet et le réutiliser, soit on va se prendre de la détresse, sachant qu'une fois qu'on a un nombre de jetons détresse limité, une fois que tous les jetons étaient donnés, je crois qu'il y en a 8 en tout, les rêveurs se réveillent et perdent. Donc il va falloir comme ça utiliser nos cartes avec parcimonie quand même, Et sinon, si on ne veut pas prendre de détresse, on va devoir en bloquer 3. Donc, ils ne seront plus jouables jusqu'à temps qu'on décide de se réveiller. Et au moment où on décide de se réveiller, on perd plein de trucs et tout. Ça vaut pas le coup de le faire régulièrement. Il faut essayer de rester endormi le plus longtemps possible, pendant le plus de parties possible.
Mm-hmm.
Donc, ce système comme ça de gestion est assez intéressant parce qu'on va essayer de maximiser nos actions et puis bien se coordonner, sachant que le jeu, il part en tour de joueurs où là, on va jouer comme on veut. Les uns après les autres, dans l'ordre qu'on veut. Et après, c'est le jeu qui joue, donc avec des entités qui nous tapent dessus, avec... D'une partie à l'autre, il ne se passe pas les mêmes choses. On peut avoir le décor qui bouge un peu comme un labyrinthe qui serait vivant. On peut avoir des rencontres avec des bestioles. On peut avoir à apprivoiser aussi des bestioles. Et c'est hyper intriguant. C'est un jeu que je ne sais pas encore si je l'aime ou pas au bout de la troisième partie. Mais en tout cas, j'y pense à ce jeu. Et j'ai envie d'y retourner.
C'est combien de temps chaque partie ?
1h30 à peu près, 1h30, 2h avec la mise en place. Ah, puis parce qu'on se rappelle aussi l'histoire. Comme il y a une histoire qui se... Et puis il y a ce truc, t'as envie de savoir qui t'es quand même. Ça, c'est intriguant. Et puis moi, j'ai vraiment envie de savoir si la promesse, elle va être là au bout. Je serais très très déçue si c'est pas le cas.
Est-ce qu'il compte, c'est le voyage ? C'est pas l'arrivée ?
Oui, bah justement, est-ce que ce voyage, il est à hauteur de ce qu'on nous vend ? Parce que moi, on me vend une histoire complexe, on me vend d'essayer de découvrir petit à petit qui est mon personnage, etc. Moi, ça me vend du rêve, tu vois, ce côté livre dont on est le héros, mais avec une vraie narration intéressante.
Oui.
Moi, j'aime les histoires, j'adore quand on me raconte des histoires, mais il faut qu'elles soient bien écrites.
Il y a un gros bouquin d'histoire, justement, comme dans This War of Mine, là,
ouais.
Un truc de script. Là.
Ouais, ouais,
d'accord.
C'est okay. Ça. Alors là, t'as la version papier, puis t'as la version sur ton téléphone, ce qui fait que t'as moins à chercher les entrées. Vu qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrées, la version appli est plus pratique. Et donc, on a notre maître de jeu qui nous lit les entrées. On a la chance aussi d'avoir quelqu'un comme ça, un maître de jeu vraiment à donf, qui est aussi MJ de jeu de rôle. Donc, ça joue et il nous fait les voix.
Il n'y a pas de doublage inclus dans l'application, quoi.
Non, et ça, c'est très bien d'avoir... je trouve que le côté où on s'en empare, on lit nous, est aussi assez chouette.
Ok.
C'est quand même bizarre.
Oui, c'est très bizarre.
Parce que le pitch que tu nous as fait est quand même... c'est bizarre, ça te parle d'escape room, ça te parle d'indices, ça te parle tout ça. Puis quand tu ouvres la boîte, t'es sur des figurines, t'es sur un dungeon crawler, on dirait. Enfin, c'est...
Oui, c'est un peu un dream crawler. et donc je cherche, voilà, la partie escape room, pour l'instant, on l'a pas trop trouvée. Hein.
Ouais, il n'y a pas de trucs sur les cartes, des indices cachés, des mots, des
un
numéros.
Un tout petit peu, mais c'est léger, okay. Puis les cartes, elles sont très très sombres.
Ouais, je vois des photos, donc... là, ça me fait penser un peu à Wonderland's War, là, au niveau sombre un peu, et chargé, quoi, comme plateau.
Ouais. Oui, c'est chargé, puis tu te balades d'une partie du plateau à l'autre, avec c'est un peu boursouflé, c'est un peu comme souvent les KS, hein.
Ma vie. Surédition.
Moi, j'attends vraiment de voir la suite. Ouais, voilà, un peu de surédition, puis un peu de surcouche, histoire de dire, voilà, ça va faire un jeu incroyable que vous avez jamais vu, parce qu'on ajoute de la couche, de la couche, de la couche. Alors que peut-être plus d'épure, comme le truc d'aller récupérer des clés pour pouvoir aller dans les rêves, ça sert à rien, c'est un peu naze. Si ça te fait perdre du temps dans ta partie, alors que la partie rêve est la plus intéressante, on pourrait y passer direct, hein. Parce qu'en plus, récupérer des clés... Des fois, c'est juste tourner une carte. Voilà, bravo, vous avez récupéré une clé. Ah, oh, bah super, merci.
Ça permet d'émarger à plus de mots-clés de mécanique sur le site BGG. Comme ça, quand tu fais des recherches sur le mot-clé,
t'es sur plein de mots-clés. Oui, ça te fait une grande description dans ton caisse, quoi. Puis ça te rajoute un peu des cartes, du matos. Du coup, t'as l'impression que. Parce qu'il a été financé à hauteur de 4 millions de dollars, quand même, ce jeu.
Ah oui, quand même.
D'accord.
Donc, il pouvait en mettre du truc dedans.
En même temps, vu le prix de chaque boîte, on arrive vite à 4 millions.
Tout à fait. Donc moi, encore une fois, je suis bien contente. Bah, de toute manière, je pense pas que je l'aurais acheté.
Il y a combien de parties pour faire la campagne en entier ? Enfin, tu le sais peut-être pas.
Hein. Alors, ils annoncent 150 heures parce qu'une fois que tu as des rêves qui vont être fermés, on va pas pouvoir tous les faire, je pense. Tu as une espèce d'embranchement. Là, pour l'instant, on a fait 3 parties. La deuxième, elle était un peu répétitive. J'ai l'impression de faire un peu tout le temps pareil. La troisième, elle a vraiment repris de l'intérêt. On a croisé vraiment des personnages assez chelous. On a croisé un cafard en chemise de nuit. Voilà. Donc, on se demande un peu ce qu'ils ont pris comme substance pour écrire l'histoire. Voilà, pour moi, on est un peu entre Lynch et Kafka. Donc, si vous aimez les ambiances où vous ne savez pas trop où vous êtes, mécaniquement, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Nous sommes des... Enfin, à ce côté, je trouve que thématiquement, mécaniquement, ça colle. parce que on est dans un jeu un peu flou, comme un rêve peut être un peu flou. Et du coup, je trouve ça quand même séduisant.
Ok.
Voilà. Il y avait un des gars du passe-temps qui en avait parlé en disant que c'était très très bien, que c'était un de ses jeux préférés, l'un des derniers arrivés dans l'équipe. Voilà, voilà, pour Etherfield.
Ok.
Très bien.
Donc à essayer, mais sans l'acheter, c'est ça.
Voilà, voilà. Trouvez-vous un ami qui aurait ce jeu.
En bonne compagnie, parce que j'imagine que si tout n'est pas très très clair, il faut quand même que... Ouais. Qu'il y ait des gens qui soient prêts à supporter un peu d'imprécision au cours du jeu, quoi.
Ouais, et puis, il vaut mieux être en bonne compagnie. Si tu dois passer 150 heures avec des gens, quand même, il vaut mieux que tu l'apprécies, quoi.
En plus, ouais. Ouais.
Ouais, non, c'est un, je joue avec un super groupe. Il y a mon compagnon et deux amis avec qui on avait déjà fait la campagne de Pandemic Legacy. Mmh. Mmh. Et justement, à la fin de la campagne, on s'est dit « Ah là là, il faut qu'on continue à se voir comme ça régulièrement parce qu'on passe des très très bonnes soirées. »
Après, je pense que les 150 heures, ça prend en compte toutes les extensions parce que je sais que quand il est sorti, il y a eu, je sais pas quoi, 6 ou 7 boîtes d'extensions en plus à côté, quoi. Donc, c'est peut-être pas 150 heures sur le premier jeu.
Bah, notre ami, il a tout.
Ah, d'accord.
Il a fait le all-in.
Bon,
bah... Donc, on peut y passer un moment.
On en parle dans 10 ans quand on aura fini la campagne.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Tu nous feras un débriefing, une review.
Voilà, avec 10 ans de plus, serons-nous encore là.
Ouais.
Eh ben, merci.
Eh ben, de
on
rien.
Va te laisser alors, t'as 150 heures à faire. Hein. Allez, faut y aller.
Et oui, voilà, on a déjà fait une dizaine... Ouais, peut-être pas loin d'une dizaine d'heures, donc...
Ah, bah c'est bon.
Pas tout à fait. Voilà, plus que 145.
T'as fait 8% du jeu, 7%.
C'est ça. Oh là là, bravo, bravo. Je suis pas capable de faire ça de tête, hein. Et bon, ben les gars.
Bon, et ben en tout cas, ouais. Joue bien. Hein.
Et ben
salut,
ouais, je vais bien. Salut.